l'écoute de RFI 20h, ici à Paris, 18h en temps universel. Anne Corpé à mes côtés, c'est son dernier journal de 20h, son dernier décryptage à venir également, où il sera question de la double attaque djihadiste survenue mardi à Bamako. Bonsoir Anne.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Au Liban, le chef du Hezbollah reconnaît que son mouvement a reçu un coup sévère et sans précédent après les explosions meurtrières qui ont touché les appareils de communication de son mouvement. Hassan Nasrallah accuse Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges. Nous serons en direct de Beyrouth avec Paul Khalife dans un instant. Les attaques qui ont visé des membres du Hezbollah dans tout le Liban ont fait 37 morts et près de 3000 blessés dans la banlieue sud de Beyrouth, le fief du mouvement chiite. La population affiche son unité dans la douleur, reportage à suivre de Laure Stéphan. Un projet de loi controversé en Italie, il prévoit jusqu'à 2 ans de prison pour le blocage de routes ou de voies ferrées. L'opposition dénonce une mesure liberticide. Elle viserait en premier lieu les militants écologistes. Nous entendrons les explications de Pauline Glaise. Et puis l'entrée en vigueur d'un couvre-feu n'a pas mis fin aux violences en Martinique. Les forces de sécurité ont à nouveau subi des tirs à balles réels la nuit dernière. Situation extrêmement tendue, nous dira le président du conseil exécutif de la Martinique. Mais tout d'abord en France, le Premier ministre vient d'arriver à l'Élysée. Il doit proposer au président Emmanuel Macron un gouvernement. Dans un communiqué, Matignon parle d'une équipe prête à agir au service des Français. Le Premier ministre a affirmé qu'il entendait améliorer le niveau de vie des Français, le fonctionnement des services publics, particulièrement l'école et la santé, garantir la sécurité, maîtriser l'immigration et faire progresser l'intégration. Son équipe devrait comprendre 38 ministres, nous y reviendrons bien sûr dès toute annonce supplémentaire. Première intervention publique du chef du Hezbollah après les 2 vagues d'attaques contre les appareils de communication de son mouvement. Pour rappel, les explosions de beeper et de talkie-walkie des membres de la milice chiite ont fait au moins 37 morts et près de 3000 blessés mardi et mercredi. Des attaques attribuées à Israël par Hassan Nasrallah qui a promis une riposte sévère, un châtiment exemplaire sans toutefois préciser ses intentions. On retrouve tout de suite à Beyrouth Paul Khalife. Bonsoir.
Bonsoir Anne, bonsoir tout le monde.
Dans son discours, le chef du Hezbollah a reconnu l'importance de l'attaque subie. Il a parlé de coups durs et sans précédent. Mais Paul Khalife, il a aussi assuré qu'Israël n'avait atteint aucun de ses objectifs.
Le premier objectif, Anne, selon Nasrallah, était de pousser son parti à cesser ses attaques contre le nord d'Israël. Une éventualité totalement exclue par Hassan Nasrallah tant que la guerre se poursuit à Gaza. Deuxième objectif, provoquer un divorce entre le Hezbollah et sa base populaire en raison des lourdes pertes subies. La réaction des blessés, de leurs familles et des partisans du Hezbollah après les attaques de mardi et mercredi a montré leur attachement à la résistance et leur détermination à poursuivre le combat malgré les sacrifices consentis, a-t-il souligné. Troisième objectif, affaiblir les structures dirigeantes du Hezbollah. Hassan Nasrallah a assuré que la chaîne de commandement et de contrôle demeure intacte, solide et plus soudée que jamais. Le leader chiite a mis au défi Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Galan, de ramener chez eux les habitants du nord d'Israël déplacés par les combats. Le seul moyen d'y parvenir est, encore une fois selon lui, l'arrêt de la guerre à Gaza. Hassan Nasrallah a tourné en dérision les menaces israéliennes d'instaurer une zone de sécurité au sud du Liban. Ce sera pour nous une opportunité de transformer cette région en enfer pour l'armée israélienne, a-t-il dit.
Merci Paul Khalife. Et pendant le discours du chef du Hezbollah, l'aviation israélienne a survolé à très basse altitude la capitale libanaise. Elle a franchi le mur du son. Deux très fortes explosions ont été entendues, de quoi nourrir la peur des habitants de la banlieue sud, déjà affectée par les attaques subies au cours de ces 2 derniers jours. Mais dans ce fief du Hezbollah, les partisans font bloc derrière leur mouvement. Écoutez le reportage de Laure Stéphan.
Elham, voilée de noir, est réticente à parler de son frère, membre du Hezbollah, blessé dans l'attaque de mardi. Elle précise juste qu'il est grièvement blessé aux yeux et aux mains et malgré le coup porté, elle maintient son soutien au Hezbollah.
Nous allons tenir bon. Jusqu'à notre dernier souffle, nous resterons sur la ligne du Hezbollah. Nous ne nous arrêterons pas. Ce sont eux, les Israéliens, qui veulent la guerre. Ils pensent que par de telles attaques, nous allons faire marche arrière et être affaiblis, mais c'est tout le contraire.
Les scènes de chaos, le grand nombre de blessés ont pourtant ébranlé les habitants de la banlieue sud de Beyrouth. La présence régulière de drones de surveillance au-dessus du quartier renforce le sentiment d'insécurité. Raya, une jeune femme, veut toutefois se montrer impassible.
Nous avons juste eu peur pour les hommes du Hezbollah en raison de ce qui leur est arrivé. La situation est dangereuse, mais que Dieu guérisse les jeunes blessés, qu'il les protège afin qu'ils puissent nous protéger.
Le premier ministre démissionnaire Najib Mikati a demandé à l'ONU de faire stopper la guerre technologique d'Israël contre son pays. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
Et côté israélien, l'armée indique ce soir avoir frappé une trentaine de lanceurs de roquettes et des sites d'infrastructures du Hezbollah au Liban. Le président américain recevra le 26 septembre à la Maison-Blanche son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky doit présenter son plan dit pour la victoire à Joe Biden. Le soutien américain à l'effort de guerre ukrainien sera également évoqué. Le président ukrainien prévoit aussi de rencontrer les deux candidats à la prochaine élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump. Un projet de loi controversé en Italie, adopté hier par les députés, il doit encore être voté au Sénat en deuxième lecture. Le texte dédié à la sécurité publique comporte des mesures antiterroristes, mais vise aussi à restreindre les manifestations pacifiques. Tout blocage de route deviendrait ainsi une infraction pénale passible de prison. Une mesure surnommée par la presse italienne « règle anti-Gandhi », en référence à l'activiste pacifique indien. Les explications de Pauline Glaise.
Actuellement en Italie, bloquer une route en faisant un barrage de son corps est passible d'une amende. Si ce projet de loi est entériné, la peine pourra aller jusqu'à un mois de prison. Et si plusieurs personnes se réunissent pour bloquer une voie routière ou ferrée, les faits seront passibles de 6 mois à 2 ans de prison. Alessio Scandura, de l'association de protection des droits Antigone, explique que cette réforme vise certains manifestants en particulier.
C'est une forme de manifestation adoptée ces dernières années par les militants pour l'environnement. Il est spécifié que sont concernés les blocages avec son corps pour éviter d'interférer avec d'autres blocages fréquents en Italie, comme celle des chauffeurs de taxi ou des transports routiers.
Alessio Scandura y voit une mesure anti-jeunes et s'inquiète de ses effets.
Le risque ici, c'est celui d'une criminalisation croissante et injustifiée contre des formes de manifestations pacifiques et non violentes. Ce genre de mesure met en difficulté un mouvement de manifestation dans le monde entier parce que ces jeunes sont submergés par des procédures pénales, des procès qui constituent une intimidation, une forme de dissuasion de manifester de la sorte.
Dans ce projet de loi, s'opposer à une infrastructure stratégique est considéré comme un facteur aggravant en cas de menace, de violence ou de résistance face à un représentant de l'État.
L'entrée en vigueur d'un couvre-feu partiel n'a pas empêché la poursuite des violences en Martinique. La nuit dernière, les forces de sécurité ont dû affronter des tirs à balles réelles, mais aussi des jets de cocktails Molotov. 12 personnes ont été interpellées, indique la préfecture. Les Martiniquais protestent depuis plusieurs jours contre la vie chère, comme dans les autres départements et régions d'outre-mer. Le coût de la vie est en effet bien plus élevé qu'en métropole, de quoi nourrir la colère des habitants. Écoutez ce qu'en dit Serge Letchimi, président du conseil exécutif de Martinique. Il a été joint au téléphone par Sylvie Coffi.
La situation est extrêmement tendue. La tension est palpable à la fois dans la société en Martinique, parce qu'il y a des actes de violence, il y a des manifestations. Parallèlement, il y a une revendication qui est partagée par une très grande partie de la population et de lutte contre la vie chère, d'une situation inacceptable, inadmissible. Quand on parle de vie chère ici, c'est véritablement quelque chose qui devient insupportable compte tenu de la situation sociale du pays. Vous savez, vous avez 76 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le taux de pauvreté touche les 35-40% quand c'est 14% dans l'Hexagone. Bon, ça montre qu'il y a une économie de confort, d'importation massive, une précarisation sous fond de richesse, mais il y a un tissu social extrêmement mauvais où la précarité domine, où les gens ont du mal. Donc pratiquement 100% des revenus de ceux qui sont dans le RSA passent en alimentation.
Je vous rappelle l'information à suivre ce soir. Michel Barnier, le Premier ministre, est en ce moment à l'Élysée. Il propose un gouvernement au président Emmanuel Macron. Jean-Noël Barrot serait proposé aux affaires étrangères. Sébastien Lecornu serait reconduit aux armées selon un responsable de l'ancienne majorité cité par l'agence France-Presse, RFI, 20h10 à Paris.